Kiosque Magazine.
Jeudi 12 mars, et je vous le dis tout de suite, au cas où vous ne seriez toujours pas sorti, l'hiver est revenu dehors parce que depuis deux jours, on avait le sentiment que ça y est, le printemps y était, que les érables allaient couler, que la semaine prochaine, on allait se baigner. Ben, il n'en est rien. Sachez que l'eau a gelé. Ça y est, il fait froid dehors. Je vous l'ai dit. Ceci dit, on va quand même vous parler d'économie et d'emploi parce que c'est notre mandat au kiosque du jeudi. Quand je dis on, je parle de l'équipe de kiosque, à savoir moi-même, François Brodeur, Éric de Belleval à mes côtés, et Rémi Hermoso à la mise en onde. Donc, si l'émission est mauvaise, rappelez-vous, c'est toujours la faute de la réalisation et donc de Rémi. Si l'émission est bonne, prière de nous envoyer des compliments. Éric, bonjour.
Bonjour, François.
Qu'avez-vous prévu?
Oh, ben écoutez, je suis content que vous soyez aussi optimiste parce que je vais démarrer avec quelque chose d'un petit peu plus lourd. Dès qu'on essaye de prendre un peu de recul avec l'économie, c'est-à-dire de prendre la mesure du fonctionnement du monde, on est forcé de toucher à des dimensions plus universelles et d'utiliser des repères politiques, historiques ou sociologiques. Et c'est peut-être d'ailleurs la seule façon de faire intelligemment de l'économie ou d'échapper aux si dangereux dogmes économiques. Alors c'est ce qu'a fait Axel Kahn, le célèbre Axel Kahn, dans un billet où il fait le triste bilan du monde que nous laissons aux générations qui viennent. Bon, cela dit, les générations qui viennent, il faut quand même qu'elles se décident entre investissement ou désinvestissement, qui est encore un excellent exemple de lutte à la fois idéologique et économique. Il existe au sein de la société, et même de l'université, un courant assez marqué qui prône le désinvestissement. Alors, désinvestir dans les industries dangereuses pour l'environnement, investir ailleurs et différemment. Eh bien, figurez-vous que c'est assez pour faire réagir l'industrie pétrolière qui, elle, on le sait, s'intéresse guère à l'environnement. Alors, elle appuie l'industrie pétrolière, sa contre-offensive, sur une base assez provocatrice, le rendement financier. Est-ce qu'on peut accepter ce type de raisonnement? Et puis, pour finir, en ce qui me concerne, je vous parlerai de la première impression. Vous connaissez bien sûr le mot qu'on attribue à Talleyrand. Méfiez-vous de la première impression, c'est la bonne. Ben, il semblerait que ce principe soit appliqué systématiquement par les recruteurs. Alors que faire pour modifier cette impression si on pense qu'on n'a pas su ou pas pu donner une bonne ou une exacte image de soi? Autrement dit, est-ce qu'on peut effacer une première impression? Ben, il semblerait que non.
Je vous avouerai que de Talleyrand, j'ai surtout retenu ce que Napoléon en disait.
Il est trop tôt pour le citer.
Voilà, voilà. Est-ce que votre facture d'électricité est hors de contrôle actuellement? Hydro-Québec nous revient encore avec des augmentations. C'est discutable. On va faire le point sur cette question-là. On parle aussi de consommation. Est-ce que vous êtes du genre à acheter des marques et à payer plus cher pour avoir qui un Apple, qui un beau frigo de telle marque avec une télécommande et une programmation Internet? On en parle en fin d'émission, mais d'abord et avant tout, il y a 8 grandes fondations de Montréal, très, très impliquées dans le milieu social montréalais, qui ont écrit au gouvernement du Québec une lettre ouverte hyper intéressante sur l'austérité, où on se demande qu'est-ce que vous voulez exactement par l'austérité et que risquez-vous d'obtenir. J'aurais pu vous lire la lettre, j'aurais pu vous lire les articles qui parlent de la lettre. J'ai choisi de vous lire l'éditorial du Devoir de José Boileau sur la question, et c'est par ça qu'on commence dans quelques instants. Or donc, austérité au nom de quoi? Par José Boileau, ça a été publié le 11 mars 2015. La confusion grandit présentement au Québec. À quel titre, au juste, le gouvernement Couillard fait-il le ménage dans les finances publiques? Pour améliorer le sort des Québécois ou pour le défi idéologique de faire place nette? Les deux propositions ne sont pas synonymes et ne produisent pas les mêmes effets, comme de plus en plus de voix le soulignent. Elles se font rarement entendre, d'où l'intérêt de les écouter. Voilà que même les fondations privées font état sur la place publique de leur inquiétude face aux changements enclenchés par le gouvernement libéral de Philippe Couillard. Y a-t-il des balises, des limites, ou ne s'agit-il que d'un exercice comptable? Le gouvernement répète comme un mantra qu'il s'agit d'assainir les finances publiques en vue de lendemains qui chantent. On débat pour savoir si la réduction des dépenses relève d'un exercice de rigueur, ce que prétend le gouvernement, ou d'austérité, ce que disent les économistes sérieux. Mais ce qui est clair, c'est qu'il manque un postulat à cette opération. Que veut-on préserver de la manière d'être et de faire de l'État québécois? Pour les fondations privées dont nous publions le texte collectif signé d'organismes aussi différents que la Fondation Lucie et André Chagnon et la Fondation Léa Robach, le critère à suivre s'exprime bien simplement. Une réforme vaut la peine si elle permet de réduire les inégalités ou à tout le moins ne les aggrave pas. L'égalité sociale, souligne-t-elle, n'est pas une tare. c'est au contraire un atout majeur qui accroît la participation économique et démocratique, la santé, la paix sociale. Ne confondons pas l'examen de l'efficacité de l'action de l'État avec la réduction de celle-ci. Le fait que le Québec est la société la plus égalitaire en Amérique du Nord est une situation enviable, lit-on encore. Un rapport qui devrait être une évidence pour tous, encore plus pour un gouvernement. Les fondations privées n'ont pas pour rôle de faire de l'analyse politique et l'expression de leurs préoccupations relève ici d'une mise en garde plutôt que d'une dénonciation. Il reste que leurs craintes reprennent ce qu'on entend dans d'autres milieux et pas seulement dans les syndicats ou chez les militants. C'est le cas en région, par exemple, ou dans les municipalités. Ainsi, après un appel lancé il y a quelques jours par Montréal et les villes avoisinantes, on a vu mardi la Fédération québécoise des municipalités s'associer à son tour à des regroupements de coopératives et de logements communautaires pour réclamer la reconduction d'AccèsLogis, un programme majeur et original qui, depuis des années, a permis le développement du logement social dans l'ensemble du territoire québécois, une vraie réponse structurante à des problèmes de pauvreté. Est-ce que le rendement social sur le long terme d'une telle dépense est pris en compte par le gouvernement qui, dit-on, voudrait la passer à la trappe dans son prochain budget? Un ménage intelligent des finances publiques permettrait en fait de renforcer les innovations québécoises qui profitent à la collectivité en séparant le bon grain de l'ivraie. Mais les libéraux, version Couillard, misent sur la logique inverse, effacer l'État. Après, c'est l'affaire d'individus, que les pauvres se tassent, que la classe moyenne paie davantage sa place en CPE comme son électricité, que les rois du village s'arrangent avec leurs problèmes de rentabilité, que les instances de concertation disparaissent, que le citoyen se contente de voter tous les 4 ans. Tout cela est bien plus vaste qu'une lutte contre le gaspillage, bien plus pernicieux qu'une opération pour contrôler le déficit. La transformation radicale du Québec est en cours. C'est bien ce qu'il faut lire derrière les inquiétudes. Et voilà, je pense que la question est posée parce qu'en gros, c'est ça le débat. Quel État veut-on au Québec? Quel modèle veut-on mettre de l'avant? On a développé une société où, oui, le gouvernement est plus présent dans notre économie que partout ailleurs en Amérique, mais ça nous donne aussi la société la plus égalitaire où, pour un revenu disponible nettement inférieur à ce qu'on trouve ailleurs, on a beaucoup plus de services et une qualité de vie qui se qualifié avantageusement avec beaucoup d'États américains. Alors, c'est la grande question, c'est ce que José Boileau pose. Est-ce qu'on est en train de faire le ménage dans les finances publiques ou de saborder l'État québécois petit à petit? Bonne question. Allez, on s'éloigne un peu du Québec, on prend du champ de la distance, on prend de la hauteur et on regarde le monde entier.
Eh oui, on regarde le monde entier, on se demande à quoi pourrait bien servir l'économie si elle ne nous aidait pas à rendre le monde meilleur. Tiens, c'est bizarre, ça paraît tellement loin de tout ce qu'on évoque habituellement. Alors d'abord, est-ce qu'elle le peut? Bon, sans doute pas. Mais quand même, se donner les moyens d'une réflexion large dans laquelle on introduit des paramètres économiques, ça peut s'avérer utile. Alors c'est un peu ce qu'a fait Axel Kahn, donc le grand généticien que j'évoquais tout à l'heure, qui a fait un billet d'humeur dans un journal français qui a été repris par le Huffington Post du 7 mars et que je vous lis. Alors le titre de cet article, c'est « Le monde de l'espoir à la fureur ». Et évidemment, Axel Kahn se pose le problème des générations futures, les fameuses dont Groucho Marx disait « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour les générations futures, elles qui n'ont rien fait pour moi ?» Mais le problème est quand même bien posé et bien réel. Après l'épouvante de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide et ses paroxysmes coréens et vietnamiens, les sanglants conflits coloniaux, la barbarie stalinienne, les révoltes suscitées, les coups de force de l'impérialisme américain, la révolution culturelle en Chine, la folie meurtrière des Khmers rouges, etc., ont continué de faire peser sur le monde une chape de violence et de crainte. Dans le même temps, cependant, les Trente Glorieuses d'une économie organisée selon les principes du libéralisme téléologique de Keynes et du New Deal de Roosevelt, principes mettant sur le même plan l'efficacité fondée sur la liberté d'entreprendre et la quête d'une meilleure justice sociale, sur le compromis social, démocrate ailleurs, permettait en Occident de réparer les dégâts de la guerre, de mener la confrontation avec le camp soviétique sur le plan de la prospérité et des libertés, de connaître enfin un progrès inédit des droits et des libertés des salariés. Certes, jamais le monde ne fut un havre de paix, et il connut encore bien d'autres convulsions. Pourtant, l'idée régna à partir de ce moment qu'on tenait peut-être le bon bout, que l'évolution vers une terre apaisée où progresserait encore la démocratie, la liberté et le bien-être, qui répondrait en somme aux aspirations du progrès, était en marche. Au point que, à la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989. Vous voyez, il y a toujours un truc qui surgit dans ma tête là, quand on parle de 89 et du mur de Berlin. Effectivement, l'automne, j'y étais, l'automne 89, quand le mur s'est effondré, évidemment, c'est le symbole de la liberté, de tous les espoirs qui sont en filigrane dans cet article. Et la même année, au printemps, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'autre grand événement? C'est la place Tiananmen. Mm-hmm. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que...
C'est le couvercle posé sur la marmite idéologique, en fait. C'est l'illusion qu'on fait disparaître la multiplicité des discours pour dire « il n'y a qu'un seul fonctionnement, le voici, on a trouvé la vérité ». C'est beaucoup ça aussi, la chute
Absolument.
Du mur.
Et ben voilà, mais il faudrait peut-être davantage hésiter entre altruisme et pulsion de mort, parce que les deux sont bien présents et agissent en même temps. Bien, pardon pour cette digression, je reprends mon texte. Au point qu'à la chute du mur de Berlin, donc j'en étais là, le 9 novembre 89, certains se laissèrent aller à professer que la fin de l'histoire, visée par la pensée de Hegel et reprise implicitement par Marx, était survenue. Pour qui se rappelle l'espoir des années 70 et 80, l'état du monde suscite en 2015 un effroi auquel il convient d'ajouter l'angoisse de la pollution et des dérèglements climatiques. Comment en est-on si vite arrivé là, c'est-à-dire à l'institution d'une nouvelle barbarie qui est à ce point en contradiction avec l'idéal du progrès? Il serait nécessaire de consacrer des volumes entiers à la dissection des mécanismes qui ont engendré cette fureur renouvelée du monde en ce début du XXIe siècle. Je n'en commenterai que deux, qui m'apparaissent à l'origine initiale du processus, les inégalités et la frustration engendrée, thème sur lequel nous revenons régulièrement dans cette émission. La logique du nouvel ordre économique qui s'est institué en 1980 se caractérise par l'abandon de la dimension téléologique du libéralisme de Keynes et Roosevelt et l'affirmation selon laquelle l'économie ne devait se préoccuper que de son propre succès et n'avoir aucun objectif social qui serait mieux pris en compte par l'accroissement de la prospérité générale. Qu'il fallait déréglementer et favoriser la satisfaction de la cupidité, puisque selon le principe fondateur de cette pensée énoncé en 1717 par Bernard Mandeville, les vices privés font les vertus publiques, ce qui signifie que les inégalités et l'avidité sont motrices de l'esprit d'entreprise dont tout le monde bénéficiera en fin de compte. Hein, le corollaire moderne de tout ça, c'est les profits d'aujourd'hui font les emplois de demain.
C'est exactement ça. Smith l'a repris aussi. Tous les économistes l'ont repris depuis. C'est-à-dire, c'est comme tout le monde recherche son intérêt, en bout de piste, tout le monde est plus riche. Ben oui.
Oui, bien. On va interroger toutes les assemblées d'actionnaires pour voir si le principe se vérifie. Il s'en est ensuivi, une très importante augmentation des inégalités au sein de tous les pays et encore plus entre les plus riches des pays développés et les plus pauvres des autres. Or, la mondialisation des moyens de communication a permis à tout le monde de prendre conscience de ce qu'est le niveau de vie occidental et de désirer s'en approcher, par l'émigration, massivement, mais aussi par la révolte et la rage suscitée par la frustration de ne pouvoir en réalité jamais accéder à un tel bien-être. Cette frustration s'est aussi élevée en totale contradiction avec les aspirations à un progrès civil qui avait au XXe siècle gagné de larges couches, au moins des élites, des pays en voie de développement. Quel contraste pour un homme de mon âge de retourner 40 ans après dans des pays du Maghreb et d'Afrique où il avait connu des populations urbaines aux femmes non voilées dont les aspirations, comme celles de leurs époux, étaient proches des aspirations de citoyens européens et américains. Le retour assez massif à l'espérance théologique des populations frustrées par les réalités terrestres a connu des conséquences particulières en pays d'islam. En effet, des nations fort peu modernistes et ralliées depuis le XIXe siècle au wahhabisme se sont trouvés opportunément immensément riches du fait de l'appétence des pays développés pour leur pétrole, puis pour leurs capitaux. Ces États ont dès lors disposé de moyens presque sans limite pour diffuser leur idéologie rétrograde et anti-humaniste à des populations déçues, désemparées et frustrées, dont certains des enfants ont plus rêvé dès lors du paradis d'Allah et de ses houris que des promesses de progrès. Le conflit israélo-arabe a bien entendu contribué à l'embrasement de ces sociétés, alors que les folles interventions occidentales bercées de la très colonialiste illusion d'exporter la démocratie ont attisé l'incendie. Partout, par ailleurs, la confrontation entre la plus insolente des richesses et une pauvreté qui, même quand elle est relative, est ressentie comme insupportable, a été l'un des leviers de la montée mondiale de l'insécurité. Je sais qu'à l'âge que j'ai atteint, il ne me reste plus guère de temps pour contribuer à changer l'orientation du monde vers l'abîme, selon moi, si une inflexion n'est pas apportée. Or, comme tous les parents et les grands-parents, je suis bouleversé de léguer un tel monde de violence et de colère à mes enfants et petits-enfants, un monde qui m'apparaît si peu accueillant à l'épanouissement de leurs aspirations. Il me reste alors à les convaincre de faire ce que ma génération a été impuissante à faire, de s'y engager de toute leur âme, de toute leur force. Hardy, bonne chance les jeunes. C'est pas très gai comme article, mais je trouve qu'il y a une force de synthèse dans cette pensée, des choses peut-être dont on est tout à fait conscient et qu'on redit incessamment. Mais c'est comme une concentration, une petite pilule qu'il est bon d'avaler, d'avaler chaque matin pour essayer peut-être de faire quelque chose.
Oui, en fait, ça me fait penser à la citation du célèbre Romain dans Astérix. Engagez-vous, engagez-vous, qui disait...
Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. And he's always gone too long. Any time he goes away. Sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. In no sunshine when he's gone. And he always gone too long. Anytime he goes away. Wonder this time where. But ain't no sunshine when he's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone. And this house just ain't no home. Anytime he goes away.
Geneviève Breton qui interprétait « Ain't no sunshines ». On vous ramène à votre quotidien, peut-être à votre mensuel, en fait à votre facture d'électricité, celle que vous recevez et payez parce que finalement vous n'avez pas le choix. Bien, sachez qu'elle va encore augmenter. Sachez aussi qu'en Ontario, à l'heure où on se parle, le gouvernement Wynne, aux prises avec un déficit majeur, parle de vendre une bonne partie de ses parts dans Hydro One. Il ne les a déjà pas toutes. Le gouvernement en vendrait une autre partie pour financer ses projets d'infrastructure. Au Québec, c'est évidemment impensable. Hydro-Québec demeure une société d'État qui, dans le cœur des Québécois, doit demeurer publique à 100 %. Dans le cœur du gouvernement, ben, ça se traduit comment? Ça se traduit par des demandes de rendement de plus en plus élevées. Officiellement, on ne veut pas augmenter vos impôts. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à Hydro-Québec de contribuer d'un dividende exceptionnel année après année. Et donc, Hydro-Québec doit fournir à l'État année après année plus d'argent. En outre, on demande à Hydro-Québec de soutenir des projets que le gouvernement ne veut pas financer. Par exemple, l'industrie éolienne au Québec, qui n'est pas rentable parce que l'électricité produite par les éoliennes est plus chère que l'électricité par les barrages. Donc, votre facture d'électricité augmente. Je laisse la parole à Julien Arsenault. Je vous ai déjà parlé trop longtemps de ma propre bouche. Un texte de la presse canadienne paru dans la presse du 9 mars. Hydro-Québec hausse ses tarifs résidentiels de 2,9. Les clients résidentiels d'Hydro-Québec verront une fois de plus leur facture d'électricité grimper puisque la Régie de l'énergie permet à la Société d'État, malgré ses profits records, de hausser ses tarifs de 2,9 à compter du 1er avril. Le tribunal réglementaire a justifié sa décision lundi par l'augmentation des coûts reliés à l'achat d'énergie éolienne par la Société d'État, une décision gouvernementale. Hydro-Québec demandait une hausse moyenne de 3,9. Ces nouveaux approvisionnements contribuent à l'augmentation tarifaire pour environ 2,1 sur les 2,9 autorisés par la Régie. Peut-on notamment lire dans la décision de 260 pages. Ça veut dire que le fait d'encourager l'industrie éolienne, c'est l'essentiel de votre augmentation cette année. Pour une résidence unifamiliale de taille moyenne, la hausse annuelle devrait osciller aux alentours de 65 $ et de près de 30 $ pour les logements, selon Hydro-Québec, qui n'a pas voulu commenter la décision de la Régie. Toutefois, en additionnant les hausses depuis 2004, Options consommateurs estime qu'elles atteignent 28,9 et ce, en dépit des ajustements à la baisse de 0,4 et 0,5 de 2011 et 2012. Pour le secteur résidentiel, la Société d'État avait réclamé l'an dernier une hausse tarifaire de 5,8 et avait finalement eu la permission de procéder à une augmentation de 4,3. Si la Régie n'avait pas permis à Hydro-Québec d'étaler sur 5 ans un montant de 222 millions de dollars principalement relié à l'achat d'électricité au prix du marché en raison des froids mordants de l'hiver dernier, la hausse aurait été de 5 d'après l'Union des consommateurs. Les consommateurs devront rembourser cette somme avec intérêt, en plus des hausses annuelles que pourra demander la Société d'État, se désole son analyste Marc-Olivier Moisan-Plante. Hydro-Québec avait dévoilé le mois dernier des profits records de 3,38 milliards de dollars en 2014. Cette performance permettra à la Société d'État de verser un dividende de 2,53 milliards, le plus important de son histoire, au gouvernement du Québec. Si Options consommateurs reconnaît qu'il s'agit d'une petite augmentation dans le secteur résidentiel, l'organisme souligne qu'elle vient néanmoins s'ajouter à celle décrétée dans le passé. Lorsqu'on fait le total des augmentations, les chiffres deviennent astronomiques, a dit le responsable du dossier énergie de l'organisme, Olivier Bourgeois. Il s'est inquiété de l'impact de ces hausses tarifaires sur les ménages à faible revenu, en rappelant qu'il y avait eu en 2014 quelques 70 000 débranchements en raison de défauts de paiement. On risque de voir en 2015 une année encore plus importante, a-t-il dit. Hydro-Québec devra mettre en place un nouveau système pour traiter les gens qui ne peuvent pas payer. Le porte-parole d'Options consommateurs dans ce dossier s'est par ailleurs réjoui de voir la Régie reconnaître le rôle joué par les associations dans la négociation entre les ménages à faible revenu et la Société d'État. La Régie invite Hydro-Québec à évaluer la possibilité de financer les associations, est-il écrit dans la décision. Je ne suis pas sûr que ça ne remettra pas en cause leur neutralité. Enfin, elle croit qu'il serait opportun de les financer adéquatement dans ce rôle d'intermédiaire entre le distributeur et les clients en difficulté de paiement. Malgré tout, M. Bourgeois se désole de voir les politiques gouvernementales, en matière d'éolien être à l'origine des augmentations pour les consommateurs qui, à son avis, ont peu de moyens à leur disposition dans ce dossier. Le mois dernier, lors du dévoilement des résultats annuels d'Hydro-Québec, son président-directeur général, Thierry Vandal, avait par ailleurs reconnu que les achats d'électricité de la Société d'État se feraient différemment si ce n'était de la filière éolienne. Les grands consommateurs d'électricité verront également leur facture d'électricité grimper puisque la Régie donne son feu vert à l'augmentation de 2,9 du tarif L, alors qu'Hydro-Québec avait réclamé 3,5. Le tribunal réglementaire souligne qu'il reconnaît une baisse de la prévision des ventes pour 2015 par rapport aux prévisions initiales de la Société d'État entre autres en raison de ralentissements dans le secteur des pâtes et papiers. Et je vous rappelle ici qu'une augmentation d'électricité, c'est la plus régressive des formes d'impôts qu'on a au Québec, puisque pour financer l'État en bout de piste par des profits, on taxe tous les ménages qui n'ont pas le choix. Et Dieu sait que plus vous êtes pauvre, plus votre dépense d'électricité est proportionnellement importante, ne serait-ce que parce que vous vivez probablement dans un logement plus mal isolé, que vous avez des équipements moins performants et que pour vous, ça n'est pas compressible. Quelques brèves avant de clore la première partie de cette émission. Je veux saluer d'abord, en ce poste 8 mars, deux nouvelles féministes. La première, il y a une femme qui a été nommée à la tête de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile à Montréal, donc la civile internationale, notre agence d'ONU à Montréal. Et je dis à Montréal parce qu'elle n'est pas au Qatar, mais juste pour voir la tête des Qataris, j'aurais peut-être aimé ça qu'elle déménage pour voir comment on aurait réagi. Alors, la nouvelle... dirigeante de l'OACI est une Chinoise, Mme Liu, qu'on félicite, voilà. Et je continue en vous disant que l'équité salariale, on a l'impression que c'est de l'acquis, que c'est déjà fait. Eh bien, sachez qu'il y a 3000 entreprises qui n'ont toujours pas fait leur exercice d'équité salariale et on en est à leur parler de programmes incitatifs pour éventuellement les amener à réfléchir sur la nécessité de mettre en place une grille d'équité salariale. Voilà, donc c'est pas gagné.
Un jeu vidéo sur tablette a été développé pour traiter l'amblyopie, une pathologie du système visuel qui affecte principalement les enfants. Et c'est Ubisoft qui a mis au point avec la société Ambliotech, une société spécialisée dans les applications électroniques pour les déficiences oculaires, ce jeu. Alors pour une fois qu'un jeu vidéo sert à quelque chose, précipitez-vous dessus.
On vous parlait du droit de grève à cette émission récemment à cause de la décision de la Cour suprême qui a décidé que le droit de faire grève était une liberté protégée par la Charte. Eh bien, si c'était une question de temps avant que ce jugement-là fasse des petits. La CSD, la Confédération syndicale démocratique, Confédération des syndicats démocratiques, voilà, s'est adressée aux tribunaux pour obtenir que les familles d'accueil puissent à leur tour avoir des moyens de pression ou un arbitrage. Et ça termine cette première demi-heure. On fait une pause. On se donne rendez-vous dans quelques minutes.
Écoutez Kiosque Magazine.
Et on reprend avec une deuxième demi-heure au cours de laquelle il sera question de première impression, de consommation, mais d'abord et avant tout, parce que ça fait un bout de temps qu'on n'en avait pas parlé, on s'était retenu, de pétrole.
Alors, de pétrole, pas tout seul dans la cour, hein, de pétrole face aux autres, face à nous d'ailleurs. Et sur la question de l'investissement. Alors, investir, désinvestir, c'est une question qui est de plus en plus à l'ordre du jour et on se la pose notamment par rapport aux problèmes environnementaux. Eh bien, l'industrie pétrolière, qui se la pose aussi, puisque les problèmes environnementaux, ça ne l'intéresse pas au premier chef, elle propose des arguments très étonnants, notamment d'opposer le rendement et à la bonne conscience supposée des écologistes. Alors, ça a intéressé Carl Renito Parazzelli dans Le Devoir du 7 mars.
Renito Parazzelli.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Renito.
Ah, pardon. Excusez-moi. Je suis désolé, je ne le ferai plus. Ce qui semblait être un mouvement inoffensif a pris une telle ampleur qu'il force aujourd'hui l'industrie pétrolière et gazière à contre-attaquer. Face aux campagnes, entre guillemets, de désinvestissement des combustibles fossiles qui ont fait leur nid dans plusieurs universités, villes et organisations à travers le monde, des entreprises du secteur énergétique passent à l'offensive en brandissant l'argument du rendement financier. Wow, je suis effrayé rien qu'à prononcer ces mots. Le mois dernier, l'Independent Petroleum Association of America, IPA, qui représente la majorité des producteurs de pétrole et de gaz des États-Unis, a dévoilé une étude visant à refroidir les ardeurs des tenants du désinvestissement au sein des universités américaines. Ceux-ci réclament que les institutions qu'ils interpellent retirent leurs investissements dans des entreprises polluantes pour les remplacer par d'autres. Voilà une bien mauvaise idée, a fait valoir le professeur à l'école de droit de l'Université de Chicago, Daniel Fischel, dans l'étude commandée par IPAA. Les coûts associés aux désinvestissements sont substantiels et peuvent avoir des impacts financiers bien réels sur le rendement généré par les fonds de dotation, a-t-il expliqué au moment de rendre public le fruit de ses recherches. Voilà une merveilleuse façon de tout considérer sous l'angle financier. Avec des raisonnements comme ça, on en arrivera à dire que les profs dans les écoles ne produisent aucune richesse. On connaît le système.
Ah, mais c'est tout à fait vrai.
Monsieur...
Ils produisent même de l'endettement étudiant.
C'est pas eux, ça c'est pas eux. Monsieur, c'est un dégât collatéral. Monsieur Fischel a analysé le rendement de deux portefeuilles sur une période de 50 ans, entre 1965 et 2014, l'un incluant des actions dans le secteur énergétique, l'autre non. Il a constaté que le désinvestissement s'est traduit par une réduction du rendement de 0,7% par année. En considérant la valeur totale des fonds de dotation des universités américaines, ça fait quand même 456 milliards, cette réduction se serait traduite par une diminution de la croissance annuelle de 3,2 milliards de dollars. J'ai tendance à discréditer un peu cette recherche parce qu'on regarde beaucoup trop longtemps en arrière pour tenter de prédire l'avenir, affirme le président directeur général du groupe Investissement Responsable, Olivier Ganache. Je relis ça quand même. On regarde beaucoup trop longtemps en arrière pour tenter de prédire l'avenir. Ça me rappelle cette très très belle phrase de Tocqueville. Quand le passé n'éclaire pas le futur, le présent est fort sombre. Bon, on lui enverra le passage. Il y a 50 ans, les impacts environnementaux liés à l'exploitation des combustibles fossiles n'étaient pas valorisés par le marché, alors que si on se projette 50 ans plus tard, on sait que les émissions de carbone et autres impacts sont plus intégrés dans les prix et se reflètent dans le marché. Selon M. Gamache, le simple fait que l'industrie pétrolière et gazière américaine publie une telle étude démontre l'importance qu'elle accorde au mouvement du désinvestissement. Il serait faux de croire que ce qui se déroule actuellement les surprend. Ça fait assez longtemps que ça se discute et que les mouvements émergent. Ils savent que la pression augmente. Le mouvement du désinvestissement qui s'est répandu aux États-Unis a rapidement fait son chemin de ce côté-ci de la frontière. À l'heure actuelle, des groupes répartis dans près de 30 universités canadiennes réclament que les gestionnaires du fonds de dotation de leur établissement désinvestissent des énergies fossiles. Alors, au Québec, et vous allez voir les noms que je vais citer, ce n'est pas des petites universités, Concordia, McGill et l'université de Sherbrooke. Mm-hmm. Pas mal quand même. L'idée de décarboniser totalement ou partiellement les portefeuilles n'est toutefois pas l'apanage des étudiants. En septembre dernier, l'ONU s'est associée à des investisseurs d'envergure pour lancer une coalition encourageant la divulgation et la réduction à moyen terme de l'empreinte carbone. Et début mars, la capitale norvégienne, Oslo, a décidé d'imiter une quarantaine de villes à travers le monde en se départissant de ses investissements liés aux énergies fossiles, dans ce cas-ci l'industrie du charbon. Dans ce débat mêlant protection de l'environnement et rendement financier, même la Banque d'Angleterre s'est prononcée il y a quelques jours en soulignant que les actions posées à l'échelle mondiale contre les changements climatiques rendent les investissements liés aux énergies fossiles risqués. Hein ? Banque d'Angleterre.
Mm-hmm.
Au Canada, l'Association des producteurs pétroliers estime qu'il est encore trop tôt pour déterminer si la montée du désinvestissement se ressent sur les entreprises qu'elle représente. Sa porte-parole, Chelsea Klassen, souligne malgré tout que cette stratégie est contre-productive compte tenu du travail de recherche et d'innovation réalisé par les pétrolières pour améliorer leur bilan environnemental. C'est comme si on disait que la paix est contre-productive compte tenu des investissements réalisés dans l'industrie de l'armement. Excusez-moi, je vais peut-être un peu loin, mais oh, après tout, je le pense. Les investisseurs vont toujours choisir leurs critères d'investissement, mais nous ne croyons pas que cibler une industrie ou un produit en particulier est une stratégie efficace, précise-t-elle. Le directeur... On pourrait encore faire des métaphores affreuses, vraiment. Oui, c'est vrai. Pourquoi cibler le bacille de la peste, après tout? Parce que c'est quand même discriminatoire. Est-ce que ça ne serait pas, par hasard, un refus d'accepter la santé publique,
hein? Je sais pas. Ou la biodiversité.
Mais exactement. Le directeur de l'investissement durable au sein de la firme Adinda Capital, Brian Mintz, demeure prudent face au désinvestissement pur et simple et recherche plutôt l'équilibre. Notre approche est d'avoir, à Munich aussi on recherchait l'équilibre, notre approche est d'avoir la meilleure compréhension possible des risques que nous prenons du point de vue de l'investisseur, résume-t-il. Sa collègue Barbara Lambert, gestionnaire de portefeuille d'obligations, explique que de manière plus large, l'intégration des critères ESG, ça veut dire environnement, société, gouvernance, est bénéfique. Ça génère un rendement à long terme qui est supérieur à celui obtenu lorsqu'on investit à court terme dans des compagnies qui s'en préoccupent peu ou pas. Ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que les arguments soulevés par les compagnies pétrolières ne sont pas convaincants.
Oui, ce qui m'inquiète dans tout ça, moi, c'est de penser que les gens qui se retirent du marché font finalement moins de pression sur la demande de titres pétroliers, ce qui va faire plus de rendement pour les gens qui vont rester dans le secteur et qui vont payer moins cher pour avoir plus de profit. Ça pourrait finir par être contre-productif. Bon, parlant d'acheter et de vendre, avez-vous un adolescent à la maison? Et si oui, pourquoi le tolérez-vous? Non, ça, c'est hors de propos. Alors, si vous avez un adolescent à la maison, vous savez probablement ce qu'est la dictature des marques, à laquelle vous vous pliez vous-même sans vous en rendre compte, probablement. Samuel Larochelle, une collaboration spéciale dans la presse du 11 mars, a publié un texte sur la question. Ça s'intitule « J'achète, donc je suis ». Entre l'époque où posséder un réfrigérateur était un gage de réussite sociale et celle où acheter l'iPhone symbolise un mode de vie unique, certaines marques ont multiplié les manœuvres pour donner aux consommateurs un sentiment de communauté. Un portrait du phénomène des tribus. Des milliers de dollars en produits Apple, des cafés Starbucks deux fois plus chers qu'ailleurs, des souliers Nike personnalisés valant une petite fortune. Les exemples ne manquent pas pour illustrer le comportement des consommateurs qui semblent prêts à vider leur portefeuille afin de combler le troisième besoin fondamental de la pyramide de Maslow, l'appartenance au groupe. C'est aliénant pour les individus de se sentir anonymes au sein de la société de consommation, explique Benoît Duguay, professeur à l'École des sciences et de gestion à l'UQAM. Autant l'humain est féru de liberté, autant il a besoin de communiquer avec ses semblables. Pour se sentir confortable, les gens tentent d'adhérer à un groupe et de se créer un nid douillet. Lorsque les rapports avec leur famille et leurs amis sont absents ou limités, les communautés marketing peuvent insuffler ce genre de sentiment d'appartenance. Ce rapport émotif convainc plusieurs consommateurs à payer plus cher pour acheter des produits similaires à ceux des concurrents. Et il existe des différences entre Apple et Samsung, mais l'un est loin d'être dominant par rapport à l'autre, affirme Pierre Balofet, professeur au département d'innovation et d'entrepreneurship à HEC Montréal. Des millions de personnes sont pourtant prêtes à payer plus cher pour les produits Apple. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes. En achetant un iPhone, on s'achète une image, une expérience. Les communautés marketing s'implantent plus facilement dans certains secteurs. C'est le cas dans les domaines plus émotionnels, souligne M. Balofet. Par exemple, les vêtements permettent d'exprimer l'appartenance à une génération, une culture ou une communauté. J'ai déjà attendu 2 heures avec ma fille devant le magasin Abercrombie de New York, poursuit-il. Il fonctionne presque comme une boîte de nuit. Quand elle est entrée, elle se sentait comme dans un temple. À sa sortie, elle m'a immédiatement demandé de prendre une photo d'elle devant le magasin pour la partager avec son groupe d'amis. Rien n'est plus efficace que ça. On retrouve le même phénomène du côté des objets électroniques, Apple, des cafés, Starbucks et de certains véhicules, Harley-Davidson. Mais certains domaines y échappent, c'est le cas de l'industrie alimentaire. Les marges bénéficiaires étant plus faibles, certaines entreprises ne voient pas le bénéfice de créer une communauté, souligne Jordan Lebel, professeur de marketing alimentaire à l'Université Concordia. Des marques comme Nutella, Chipotle et Whole Foods sont très fortes, mais il faut faire la différence entre une communauté et des entreprises avec des clients hautement fidèles. Une marque comme Sobeys a tenté diverses initiatives, comme le Wikibouffe, mais on est encore loin des communautés comme Harley-Davidson. Les membres d'une communauté marketing sont nombreux à défendre leur marque fétiche sur les réseaux sociaux et dans leur cercle d'amis. C'est une façon pour eux de défendre une image d'eux-mêmes, dit Benoît Duguay. Le principal vecteur de réussite d'une stratégie marketing consiste donc à engager les consommateurs pour qu'ils s'emparent du message et le repartagent. Quand les gens choisissent Apple, ils ne font pas uniquement l'achat d'un appareil électronique. Ils agissent avec conviction, observe Pierre Balofet. Ils contribuent au phénomène au lieu de l'observer passivement. Plusieurs consommateurs partagent sur YouTube des vidéos où ils sont en train de déballer leurs achats Apple. Il s'agit d'une mise en scène distinctive qui renouvelle un peu le discours. L'avènement du Web 2.0 a eu pour effet d'engager davantage les membres de certaines communautés et d'obliger les entreprises à les écouter. Comme les médias sociaux impliquent une diffusion des commentaires à la vitesse grand V et une communication bidirectionnelle directe entre une marque et ses consommateurs, l'entreprise est mise au courant assez vite de l'insatisfaction de ses fans, soutient Claudine Ouellette, chargée de cours en sciences de la consommation à l'Université Laval. La force de la communauté est autant plus positive que négative. Et pour illustrer ce propos, je vous rappellerai qu'au Japon, McDonald's a lancé une application permettant aux clients insatisfaits de faire immédiatement savoir à la société qu'ils sont insatisfaits. Bon, il faut dire qu'il y a eu plusieurs scandales en Asie pour la qualité des services et de la bouffe de chez McDo, et qu'on doit sauver la franchise. Mais c'est une autre illustration du principe. Alors, qu'en pensez-vous, vous qui nous lisez vos nouvelles sur une tablette Apple?
Écoutez, je pense qu'elle pourrait être deux fois moins chère. Et puis, je vais vous faire un aveu, puisque vous me questionnez là-dessus. Je suis allé l'autre jour rue Sainte-Catherine chez Apple pour acheter un iPhone, un machin là. Vous savez, ces téléphones pseudo-intelligents. Et puis, Non, mais tout ça pour communiquer avec mes enfants. Enfin bon, bref, des prétextes absurdes. Je suis entré. Et puis, j'ai eu un tel sentiment d'écœurement. Alors, vous allez me dire vraiment quelle démagogie et tout. Je me suis mis à voir, à penser à tous ces petits mômes qui fabriquent ces téléphones pour trois fois rien et qui nous les vendent, dont la société qui les exploite nous les vendent à des prix aberrants, pour des marges aberrantes, pour des profits aberrants, qui ne payent pas d'impôts, etc. Ça m'a donné envie, je ne vous dis pas de quoi parce que c'est encore le matin très tôt, et je suis sorti du magasin sans rien acheter. Je n'y retournerai pas. Bon.
Ils mènent une vie sans excès, font gaffe à tout et se surveillent de près. Avoir un corps parfait, c'est un sacerdoce, mais leur capital santé mérite des sacrifices. Ils boivent de la bière sans alcool, elles mangent pas de viande, ça donne du cholestérol. Ils boivent leur café décaféiné avec du sucre désucrifié. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Elle met de la crème anti-âge qu'elle combine avec un doux gommage qui restructure en profondeur les macromolécules en hydratant le derme contre les rides et les ridules. Comme il redoute l'effet peau d'orange, elle a eu un rameur pour leurs 10 ans de mariage. Il dit qu'il aime le sport, pas la compétition. C'est quoi ses coupes, ses médailles, bien en vue dans le salon? Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto et boire des apéros. Les cheveux blancs des vieux, les enfants dépeignés, les rides au coin des yeux, les doigts dans le nez, le bordel, le désordre et le bruit, le pas bien rangé, le ça peut plus durer à notre santé. Des fois un criminel allume une cigarette, elle le fusille du regard et court vers la fenêtre. Elle dit ah de l'air, c'est vivifiant, et aspire à plein poumon tous les bons gaz d'échappement. Il a des bombes qui vaporisent du poison contre tous les insectes de la création. Il faut éradiquer tout ce qui apporte des maladies. Il a des doutes sur ses voisins, mais les tuer c'est interdit. Et ses voisins, j'en fais partie, est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Et l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros. Est-ce ma faute à moi?
Benabar, à votre santé. Un autre choix musical de Rémi Hermoso, qui, je vous le rappelle, dirige cette émission d'une pointe de fer derrière sa vitre et ses boutons. Bon, j'aurais un message personnel ici à passer à toutes ces dames. Ne vous fiez pas à votre première impression, particulièrement quand vous me rencontrez. Voilà, je l'ai dit. Parce que la première impression, c'est quand même important, Eric.
Oui, alors on connaît tous ces angoisses hein, dans la préparation du déroulement d'un entretien d'embauche et puis la difficulté à surmonter des erreurs qu'on commet souvent malgré soi, c'est-à-dire en en prenant conscience et sans possibilité d'y remédier. Vous savez, le truc là qui vous... tétanise. Ah mon Dieu, j'aurais jamais dû dire ça. Bah que faire? Demander une seconde chance? Hein? Non, bah, vous venez de nous expliquer que c'était impossible, hein, en quelque sorte. Bon, alors il faut travailler sur cette première impression. Ça a intéressé Julie Blais dans Les Affaires et elle nous suggère de contrôler notre première impression. Est-il possible d'avoir une deuxième chance de faire une bonne impression? Non. Vous n'aurez jamais l'occasion de changer cette initiale perception que l'autre a eue de vous.
Donc, je suis faite.
Mais attendez, on va voir, réfléchissons. Prenez le problème un peu en amont. Hein. Alors, je vous entends. Voyons, Julie, quand je rencontre des gens, je ne suis pas si superficiel, je donne la chance au coureur, je gratte un peu pour bien connaître la personne avant de le catégoriser. Oui, il se pourrait, à la suite de quelques interactions, que cette critique soit erronée ou que votre juge, entre guillemets, change d'avis. Mais n'y comptez pas. Par définition, l'effet de primauté ne se produit qu'une seule fois, tout de suite, voire même instantanément. En moins d'une seconde, selon le psychologue Alex Todorov de l'université Princeton, l'autre vous analyse et décide si cette initiale impression est bonne ou mauvaise. Je fais une petite parenthèse parce que pour avoir, dans ma vie, recruté, je pense, des centaines de personnes, il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la couleur de la cravate, la façon de s'asseoir, le mouvement qu'on donne en fermant la porte, etc., qui vraiment contient une grande, grande part de la décision. Totalement absurde, n'est-ce pas? Enfin, bon.
Très inquiétant, alors, en fait.
Inquiétant, ouais. Ce comportement humain remonte à l'ère préhistorique. Remarquez, à l'inverse, je me souviens avoir pris énormément de temps, avoir mis beaucoup de scrupules à engager quelqu'un qui s'est révélé complètement nul. Et alors que sur un coup de tête, parfois, ça donnait de très bons résultats. Mais bon, enfin. Alors, chaque fois que j'anime un atelier, je reprends l'article, chaque fois que je n'anime aucun atelier, je vous rassure, influer en quelques secondes, vous devrez aller voir, non, influer en quelques secondes, je demande aux participants de faire la liste du top 5 des éléments qui contribuent à une première impression. Peu importe la profession, l'âge, le sexe ou la langue parlée, les résultats sont presque pareils à une ou deux positions près. Toutefois, celui qui est toujours en tête de liste, celui qui est le plus important, est le même. Vos parents vous l'avaient bien dit. Garde ta tête haute, ton dos droit, mets tes épaules égales et laisse tes mains de chaque côté de ton corps. Ne mettez surtout pas vos mains devant, à la Adam et Ève, ni derrière, pour faire comme une sentinelle au repos. Vous donnerez l'impression de vous protéger ou d'être distant, non impliqué, relaxé. Laissez-les de chaque côté. Ne les mettez pas non plus dans vos poches. On se demandera à quoi vous jouez, avec vos sous. Tous sont d'accord. C'est par les yeux qu'on valide l'authenticité et l'honnêteté. Et voilà pourquoi l'humanité court à sa perte. Bon, il ne s'agit pas de fixer l'autre tout au fond de ses pupilles. L'autre tout au fond de ses pupilles, pardon. Hein, mais je disais l'autre tout comme une espèce de quête. Bon, cela créera un malaise et pourrait gêner ou même intimider. Ben, ça dépend si on a l'hypnotise. Engagez-moi. Le contact visuel se fait de 40 à 60% du temps dans le triangle professionnel. Sa base est sous les yeux et son sommet se trouve où le front rencontre les cheveux.
C'est... Oh non, s'il est chauve, le recruteur.
Oui, j'allais poser la question. Sérieux, réservé, grogneur ou même introverti, soyez avisé. Universellement, tout le monde, vous inclus, souhaite tisser des liens avec des gens qui sont accessibles et aimables, n'est-ce pas? Pas tout à fait à l'aise, nerveux ou inquiet. Vous savez quoi? Nous sommes tous appréhensifs à l'idée de faire une bonne première impression. Même les extravertis. Pensez à des moments heureux. Formulez mentalement des pensées positives sur l'autre. Souriez et le monde vous sourira. C'est un fait. Le sourire est contagieux. Faites le test. Souriez. On s'habille pour son client. Votre tenue vestimentaire doit démontrer que vous faites partie de l'équipe de celui à qui vous souhaitez offrir des produits ou services. Vos vêtements affichent votre alliance et donnent de la crédibilité à votre rôle pour inspirer confiance en vos habiletés. Par exemple, la comptable de Lady Gaga, je suis content pour elle qu'elle ait une comptable, pourrait être habillée plus tendance excentrique même que la comptable d'un conseiller en assurance. Là, je ne vois pas ce que ça vient faire, mais bon, il faut faire confiance aux experts. Vos vêtements doivent refléter l'activité. La comptable qui va faire l'inventaire d'une ferme laitière à Sainte-Cécile de Milton s'habillera différemment.
De Milton,
oui,
c'est à côté de chez moi.
J'étais sûr que vous alliez me reprendre. J'ai fait un peu exprès et c'est bien passé comme ça. Bon. que celle qui doit rencontrer un nouveau client pour discuter de son portefeuille dans la salle de réunion au siège social. La poignée de main et la salutation de mise pour les rencontres d'affaires, sans distinction entre les sexes, ce toucher peut confirmer une bonne première impression ou semer le doute. Alors que votre poignée de main ne ressemble pas à une vieille mangue qui est restée trop longtemps au soleil.
Vous avez la main moite. Comment éviter d'avoir la main moite quand on a la main moite, alors que d'avoir la main moite, ça vous rend la main plus moite encore?
Oui, effectivement. Comme disait Coluche, il ne faut pas avoir les mains moites et surtout pas les pieds poites. À son origine, au temps des chevaliers, ces secouements simultanés du coude à la main droite étaient pour démontrer l'absence d'armes, peut-être dissimulée dans sa manche. Encore aujourd'hui, lors de sommets internationaux, les paparazzi cliquent leur appareil pour capter la photo de deux dirigeants qui se donnent la main. Ainsi, ils annoncent que leurs intentions sont pures, sans motif caché. Ils visent une relation harmonieuse.
Et notez bien qu'ils la reprennent tout de suite après, hein, leurs mains.
Ah, oui, ça, alors... Maintenant, oui, tout le monde se rappelle la poignée de main de Montoire, n'est-ce pas? C'était qui? Pétain et Hitler. Oui, tout homme est mon frère. Bon, pour commencer vos exercices, vous nécessitez un miroir. Vous nécessitez un miroir, pour moi, ce n'est pas très français, ça. Hein. Je suis désolé de le dire, mais enfin, vous avez besoin d'un miroir. Bon. Il doit être de pleine longueur. Au fait, cet objet banal que l'on peut facilement retrouver dans les grandes surfaces ou quincailleries est le meilleur investissement que vous pouvez faire sur votre carrière. À moins de frais qu'une soirée au cinéma. À moins de frais qu'une soirée au cinéma, ça dépend du miroir, je suis désolé. Il vous permettra de vous observer, de faire le premier, le constat que vous dégagez. Il vaut le coup. Oui, sauf que quand je me regarde dans un miroir, je ne suis pas dans la même situation que quand quelqu'un me regarde. Ce n'est pas du tout le même visage, c'est bien connu. On ne se voit jamais. Bon, bon.
Sans parler du fait que je préfère garder mes illusions que mon reflet.
Mais François, votre conformisme vous perdra. Il faut absolument que vous changiez de point de vue. Regardez-vous et pratiquez-vous chez vous. Pratiquez-vous chez vous, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces formules-là? Ça ne veut rien dire. Puis ensuite, partout. Mais c'est pire encore. Une fois que vous aurez analysé et expérimenté devant votre réflexion, soyez votre reflet, j'imagine.
Oui.
Hein, d'accord. Soyez conscient des 5 éléments du top 5. Quand vous croisez vos collègues dans les couloirs, de futurs clients en 5 à 7, et même avec les employés en faisant vos courses, toutes les occasions sont bonnes. Alors prenez le contrôle de votre première impression. Bon, cet article ne m'a vraiment rien apporté, ne m'a pas convaincu. Moi, je vais vous le résumer en une phrase simple, et puis je vais vous dire, ça, c'est la clé. Vous voulez aller à un entretien? Balayez tout ça. Faites absolument rien de ce que je vous ai lu. Par contre, faites une chose, et ça, c'est une clé en or, soyez vous-même.
Vous avouerai-je mon truc personnel pour les entrevues,
le
qui consiste pour maîtriser une langue seconde, rien n'est plus efficace que de porter des sous-vêtements neufs. On l'a vu avec les déboires de Marquette et de plusieurs marques importantes au Québec, la consommation, la vente de détail, c'est un secteur qui devient difficile. Une des raisons à ça serait probablement que les Québécois préfèrent acheter en ligne sur des sites étrangers. Il faut savoir que dans les achats de commerce électronique, c'est beaucoup, beaucoup des sites américains qui sont fournisseurs, ce qui va faire, par exemple, que vous allez acheter vos livres chez Amazon.com plutôt que chez Rue des Libraires, qui est le site des librairies indépendantes québécoises. J'en profite pour passer de la pub. Je suis désolé, c'est plus fort que moi.
Oui, alors vous savez qu'on fait beaucoup de choses dans les universités et à Bristol, qui en comporte une tout à fait renommée, eh bien, on a testé un prototype de toilette où c'est l'urine qui produit l'électricité. C'est intéressant, non? Alors c'est marrant, c'est des toilettes qui ont été installées à la proximité du bar des étudiants et les étudiants et les professeurs, il y a une belle petite affiche, sont priés de faire don de leur urine pour alimenter des piles à combustible microbiennes intégrées à l'ensemble. On va en parler à Hydro-Québec.
Oui, il y a des universités qui feraient n'importe quoi pour rendre leurs étudiants brillants. Le Conseil du patronat du Québec a publié une étude où on nous avertit que le niveau de vie des Québécois pourrait régresser si on ne développe pas un peu plus l'entrepreneurship. On nous rappelle que le niveau de production des Québécois n'est pas dans les plus beaux mesurés par l'OCDE, qu'on n'est pas les plus enthousiastes pour se lancer en affaires, qu'on a plein de bonnes idées, on en a plus qu'ailleurs. Mais les Québécois ne se font pas assez confiance pour se lancer en affaires, n'y sont pas encouragés. Ça n'est, semble-t-il, pas dans notre culture judéo-catholique, puisque c'est le mot.
Puisqu'on parlait d'études, tiens, je suis tombé sur une autre étude réalisée par un éminent universitaire qui s'appelle le docteur Pennicott et qui a testé sur 660 personnes, tenez-vous bien quoi, l'usage du téléphone intelligent. Il en a conclu que ça rendait stupide, puisque évidemment, plus vous cherchez sur votre téléphone, moins vous faites d'efforts de recherche, de concentration et de fixation des choses. Et donc le téléphone pseudo-intelligent, et donc particulièrement stupide, est un outil à manier avec parcimonie.
Pourquoi s'éloigner des études quand on peut continuer à pelleter de la théorie? Cette fois-ci, je vous amène aux États-Unis où on a fait une corrélation, enfin une corrélation qui semblait évidente pour la plupart des gens. Le déclin, en fait, la progression des bas salaires dans les échelles de rémunération américaines est directement proportionnelle au déclin de l'activité syndicale. Il y a de moins en moins d'Américains qui sont membres de syndicats qui lui appartiennent. Conséquence, les salaires sont de plus en plus bas. Voilà, c'est prouvé, c'est établi. Alors, vous l'entendez, c'est l'indicatif qui nous signale que cette émission tire déjà à sa fin. On remercie Rémi à la mise en onde. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre édition de Kiosque Magazine Économie et Emploi. Et on vous invite à demeurer à l'antenne pour la revue de presse de Clotilde Seille.